en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'Institut de France a fait partie, avec la Sorbonne et l'UNESCO, des lieux qui ont abrité, à Paris, les 24 et 25 mars 2011, le Parvis des Gentils, une rencontre entre croyants et non-croyants. Parmi les nombreux intervenants, le philosophe Rémi Brague, de l'Académie des sciences morales et politiques, que Canal Academy vous propose d'écouter maintenant.
Éminence, Monsieur le Chancelier, Excellence, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames et messieurs, je voudrais ici reprendre et souligner trois points de l'intervention de François Théré. Je le ferai dans un esprit de provocation et de paradoxe. Mon premier point sera une expression de Hegel qui appelait le christianisme la religion absolue. La formule scandalise notre époque qui aime noyer le poisson et avec lui le signe du poisson. On la comprend comme une prétention à posséder la vérité, comme on dit, pour s'en défendre. Et pourtant, cela me semble vrai, voire d'une évidence banale, pour peu que l'on donne aux mots leur sens, tout leur sens, et surtout rien que leur sens. Absolu, absolutus, est un doublet de absou, délivré du lien des péchés qui entravait. Absolu veut dire qu'une chose est déliée, dégagée de tout ce qui n'est pas elle. Or, le christianisme a justement cette particularité remarquable qu'il est une religion qui n'est qu'une religion. Une religion et rien d'autre. Les autres religions sont des religions et, à chaque fois, autre chose. Le bouddhisme, s'il est une religion, et certains préfèrent éviter ce mot, est une religion et une sagesse. Le shintoïsme est une religion et un légitimisme dynastique. Le judaïsme est une religion et un peuple. L'islam est une religion et une loi. Le christianisme n'est pas une loi. La distinction entre les normes, dont le droit et la morale d'une part, et d'autre part la religion, cette distinction est nette dans le christianisme, beaucoup moins dans les autres religions. L'historien Fustel de Coulanges l'a écrit en 1864 dans son grand livre sur la cité antique. Je cite « Le christianisme est la première religion qui n'ait pas prétendu que le droit dépendît d'elle. » Il pensait avant tout à la religion des cités antiques. À plus forte raison, il n'y a pas de halakha ou de charia chrétienne. Il n'y a pas de droit chrétien. Il y a des chrétiens qui font du droit et qui essaient d'y introduire le plus de justice possible. Même la prétendue morale chrétienne n'a rien de spécifiquement chrétien. Elle n'est pas le folklore d'une nation particulière. Elle est la morale commune. Les rabbins du Talmud assignaient aux nations du monde, parmi lesquelles ils plaçaient les chrétiens, sept commandements fondamentaux qui auraient été donnés à Noé au sortir de l'arche. Ils sont d'ailleurs du plus haut intérêt pour l'anthropologue, puisqu'on peut y trouver l'équivalent de la prohibition de l'inceste et même de la cuisson des aliments. Les chrétiens se réfèrent plus volontiers au décalogue. Dans les deux cas, on est en présence de ce que j'ai appelé ailleurs le kit de survie de l'humanité. Son respect n'est pas avantageux pour les chrétiens en particulier, il est vital pour l'humanité en général. De même, le droit romain qui était en vigueur n'a pas été modifié en profondeur par le christianisme. Celui-ci n'a fait qu'adapter certaines dispositions légales qui heurtaient les chrétiens. Ceci n'apportait pas de révolution sociale ou juridique, il n'apportait pas de commandement nouveau. Qu'apportait-il alors ? Peut-être un regard plus aigu pour discerner de l'humain là où l'on avait jusqu'alors du mal à en voir. chez l'enfant, chez la femme, chez l'esclave, chez le non-grec, du point de vue des Grecs, chez le païen, du point de vue des Juifs. On peut penser ce que l'on veut de la façon dont l'Église défend aujourd'hui des réalités incapables de faire valoir elles-mêmes leur humanité. Au début de la vie, le fœtus, voire les cellules embryonnaires, et à l'autre bout de celle-ci, le mourant dans le coma. On peut discuter certaines prises de position. Il importe en tout cas de voir que les chrétiens d'aujourd'hui ne prétendent rien faire d'autre que ce que les premiers d'entre eux avaient fait, à savoir ratisser l'humain assez large pour qu'on soit sûr de ne rien laisser au dehors. Mon second point, la nature dont parle le droit naturel n'est pas la nature comme la biosphère qui nous entoure de toute évidence, et encore moins celle, cachée celle-ci, dont les sciences nous révèlent les lois. Invoquer le droit naturel, ce n'est pas inviter à agir comme les plantes ou à agir comme les animaux. Ce n'est pas céder à ce que l'on appelle maintenant du biologisme. Notre difficulté à comprendre de quoi il s'agit dans le droit naturel tient à une évolution, voire une révolution, dans le sens même du mot « nature ». Pour nous, modernes, l'état naturel des choses est leur état initial, spontané, brut, avant que n'intervienne ce qui discipline, rectifie, nettoie. Le naturel est le sauvageon qui n'a pas encore été sarclé, émondé, cultivé, donc, par ce que nous appelons, en un jeu de mots aussi profond qu'ancien, la culture. Pour les anciens, le naturel était au contraire l'état intégralement déployé d'une réalité, celui dans lequel cette réalité a atteint la plénitude de sa maturité et où elle est vraiment elle-même. Historiquement parlant, les doctrines du droit dit naturel que l'on trouve chez Cicéron, chez les juristes romains ou chez saint Thomas d'Aquin supposent cette nature orientée vers sa perfection, téléologique en termes techniques, cette nature qui est en gros celle des stoïciens. Et c'est une nature telle que l'on peut parler de normale et de pathologique. Ces notions sont aujourd'hui devenues impopulaires. On les déclare vides de sens ailleurs qu'en médecine. Peut-on alors parler, plutôt que d'un droit naturel, d'un droit rationnel ? Oui, puisque la nature de l'homme, c'est justement la raison. Mais cette substitution n'est légitime qu'à condition de ne pas confondre la raison avec le calcul au service du caprice, même si celui-ci est affublé du nom de « demande de société ». Ceci dit, nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle alliance entre la nature au sens du droit naturel et la nature au sens de biosphère. Celle-ci est en effet menacée, soit, ce qui crève les yeux, par les atteintes à l'environnement, soit, de façon insidieuse et donc peut-être plus dangereuse, par les atteintes portées aux conditions de base de la reproduction de l'espèce. Et la raison doit respecter les conditions de sa propre émergence, c'est-à-dire l'existence de l'animal raisonnable que nous sommes. Mon troisième point, nous vivons tous en théocratie et nous ne pouvons vivre que sous ce régime. Là aussi, il faut distinguer. On comprend la plupart du temps par théocratie le règne des hommes de religion ou, à tout le moins, leur influence excessive sur les affaires de la cité. On cherche de cet épouvantail des exemples historiques et ils sont d'ailleurs bien plus difficiles à trouver qu'on ne le pense. Mais il n'est pas besoin de chercher aussi loin pour trouver une théocratie. Au pied de la lettre, la conscience et la voix de Dieu en nous. L'écouter, c'est faire advenir le règne de Dieu en une partie du monde qui n'est pas bien grande, mais qui a l'avantage de dépendre de nous, à savoir nous-mêmes. C'est au pied de la lettre que Rousseau parlait de la conscience comme d'un instinct divin, immortel et céleste voix. Je le prends ici tout à fait au sérieux. Ce Dieu qui parle dans la conscience ne se fait pas connaître comme tel, dans le tonnerre et les éclairs. Et la conscience parle aussi, voire parfois plus clairement, chez certains de ceux qui ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître Dieu. Pourquoi ? J'aimerais répondre en formulant à ce propos une règle. Dieu ne cherche pas son propre avantage, même son propre avantage symbolique, sa propre gloire. Il cherche l'avantage de ses créatures. En particulier, il ne cherche pas à se faire connaître parce qu'il aurait besoin d'une claque pour l'applaudir. Le Dieu des chrétiens se fait connaître uniquement lorsque c'est nécessaire pour le salut de sa création. Point n'est besoin de l'identifier comme tel en toutes circonstances. Ce Dieu agit de la sorte, selon les règles de la plus élémentaire et fort humaine courtoisie. Si dans la rue un inconnu nous demande son chemin, nous le lui indiquons sans éprouver pour autant le besoin de nous nommer. Nous le faisons, le cas échéant nous donnons notre numéro de téléphone ou notre carte de visite, uniquement s'il s'avère qu'un contact renouvelé pourrait apporter une aide supplémentaire. De même, Dieu ne se révèle que là où il n'y a pas d'autre moyen de proposer le salut à celle de ses créatures qui a besoin d'être sauvée, à savoir l'homme. Pour qui se croit capable de se débrouiller tout seul et qui refuse la révélation, il reste tout le domaine dans lequel Dieu, quoique tout aussi présent, n'a pas besoin de se manifester explicitement. Tout le domaine de la raison, donc, tout ce qui est devant l'entrée du temple, tout ce qui est, c'est l'étymologie de cet adjectif, profane, c'est ce domaine-là qui constitue le parvis des gentils. Je vous remercie.
Sur Canal Académie, vous pouvez également écouter une interview de François Bousquet, vice-recteur de l'Institut catholique de Paris, qui présente l'ensemble de cette rencontre. Il vous suffit de taper « Parvis des gentils » dans le moteur de recherche de la page d'accueil de Canal Académie.